Monsieur Delon.
Delon par Delon.
C'est un accident, ce que je suis. Et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon.
C'est mon idole.
Et par Laurent Delmas.
Qu'est-ce que vous vouliez dire sur Alain Delon ?
Il est fascinant et formidable. On ne peut pas inventer ce qu'il fait. On l'a dedans et on le sort ou on ne le sort pas.
Je suis un acteur qui essaie de transposer, de ramener les personnages à mon moi personnel.
César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard.
Bonjour mon oncle.
Tancrède.
Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Roku, ni à ses frères.
Nadia ! Nadia, arrête-toi !
Non, laisse-moi !
Ni au clan des Siciliens.
D'accord. Mais je vous préviens que moi, on me vire pas d'une affaire.
As-tu entendu parler de la tulipe noire ?
La tulipe noire ?
Ah, c'est moi.
Non.
Eh oui.
Allô, Robert Klein ?
Allô, qui est à l'appareil ?
Robert Klein.
Molto bravo. Arrivati là, ti do un bacio.
J'étais, entre guillemets, une vedette italienne avant d'être une vedette française.
Vous parlez, vous parlez. Vous ne pensez qu'à vous.
Il restera quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans de Monsieur X ou de Madame Y dans l'histoire du cinéma français ou mondial ? Rien. Moi, je resterai.
Avez-moi.
Et avez Laurent Delmas.
Épisode 8 de Godard.
Montée.
Au nanar.
Décembre.
80 films en 50 ans. De Quand la femme s'en mêle, d'Yves Allégret, en 1957, jusqu'à Astérix aux Jeux Olympiques de Frédéric Forestier et Thomas Langman en 2007. Et dans la foisonnante filmographie d'Alain Delon, des chefs-d'œuvre reconnus comme tels, d'autres sous-estimés, des films en tête du box-office, d'autres dans ses tréfonds, et aussi des mauvais films, tout simplement. Dans ce nouvel épisode, on a donc choisi de se concentrer sur la seconde partie de la carrière de l'acteur, celle qui va de 1979 à 2007. Parce qu'elle cumule peut-être tous les paradoxes. On y croise des films de Jean-Luc Godard, Bertrand Blier, Agnès Varda ou Volker Schlondorf, et même Bernard-Henri Lévy, aussi bien qu'un film record qui a rassemblé près de 7 millions de spectateurs, et surtout, sans oublier,
pitié,
des nanars qui riment bien souvent avec polar. C'est cette diversité, et le mot est faible, que nous interrogerons. Comme nous y invitait en quelque sorte Delon lui-même, quand en 1983, face à Georges Bégout, il présente Le Battant, le deuxième film qu'il a réalisé après Pour la peau d'un flic. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acteur-réalisateur fait preuve de lucidité dans ce sujet du 13h d'Antenne 2, enregistré sur le vif.
Le style de film que j'ai choisi est le style policier que certains appellent polar, ce qui n'est absolument pas péjoratif. Et dans tout film policier, dans les histoires de gendarmes et de voleurs, il y a effectivement de l'action, donc des cascades. Si vous voulez, la cascade, c'est vraiment concrétiser au maximum l'action dans un film.
Est-ce que ça ne correspond pas, ce besoin d'action au cinéma, à quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer dans la vie ?
Non, absolument pas. Je crois que c'est pas mon besoin, ça n'est pas pour répondre à mon besoin. Je crois qu'il faut voir les choses en face, c'est pour répondre à un besoin du public. Il ne faut pas se cacher les choses. Vous savez, lorsque vous avez un reportage à la télévision ou un film ou aux actualités, c'est presque un plaisir malsain, mais il faut bien avouer et bien reconnaître que les gens aiment ça.
Voilà. Et là, et c'est très sec. Yvette Chabry, là, Marie. Merci, madame. Je vous en prie. Et vous raccrochez. Et là, je vous demanderai un petit truc d'agacement quand vous allez raccrocher. Voilà. Hein ?
D'accord.
Donc on est sur Madame Chabry au départ. Non, non. Assise dans le fauteuil là-bas.
Allons-y. Je le regarde.
Il regarde toujours où est la caméra. En fait, il répète, mais en même temps, il a l'œil sur la technique. Et après, il fait abstraction de tout ça. Et il est dans son personnage. C'est assez extraordinaire.
On sait que Delon a un respect infini pour Melville.
Mais c'est pas très loin de Melville. Hein. C'est la même passion du cinéma, c'est la même précision.
Tu as le raccord de la lumière que tu as quand je rentre, mais à ce moment-là, lui est dans le noir.
On commencerait comme ça sur la maison. On va chercher.
Ah
va, c'est OK ?
Ouais, c'est tourné.
Pour être franc, ce film que je suis en train de faire en ce moment, c'est une façon pour moi, si vous voulez, de me perfectionner mon bagage, que j'appellerais mon bagage technique, pour accéder plus tard à des films, disons, tout à fait différents et qui sont plus l'essence même de ce que je pense, de ce que je ressens et ce qui se trouve au plus profond de moi-même. Donc c'est une forme, si vous voulez, en ce moment, de répétition technique. Et après, je dirais des choses beaucoup plus importantes.
Stop. Tu conduis.
Dialogue de Christopher Frank sur fond de cascades automobiles. De fait, on est loin de Melville, mais le film rassemble 2 millions de spectateurs.
C'est loin ? Non. Je te dis de ralentir.
T'as mal au cœur ou quoi ?
Arrête, ou bien...
Bien quoi, Gino ? Tu veux tirer ?
Bah vas-y, tire, ça gêne pas !
Qu'est-ce que t'attends, Gino ? Bah vas-y ! Ton flingue, tu peux te le carrer, t'aurais une brosse à dents, ce serait pareil.
Tu vas nous tuer !
Non, Gino, toi seulement.
Salut, Gino.
Dans ces années-là, Delon ne va cesser de défendre des films improbables.
Pour qui tu fais ça ?
En évoquant à chaque fois, et sans faiblir, le goût et les demandes du public, de son public, comme il le dit.
Accélère.
En 1983, par exemple, voici comment il défend bec et ongles le film de Robin Davis, Le Choc, face à Christine Ockrent sur Antenne 2. Adapté d'un superbe polar de Jean-Patrick Manchette, le film tourne à vide, obtenant bien vite la réputation justifiée de nanar. Et Delon semble oublier qu'il avait déjà tourné avec Catherine Deneuve dans Un flic de Melville. Mais le seul véritable et insuffisant choc du film, c'est peut-être la gifle réciproque que se donnent les deux stars.
C'est l'avis du public que nous attendons avant tout.
Et vous pouvez déjà nous dire de quoi il s'agit ?
Comme son titre l'indique, j'espère que pour les spectateurs, le film sera un choc, comme il s'intitule. Disons que déjà c'est un choc de par la rencontre de ces deux comédiens de nature tout à fait différente. C'est à mon avis une rencontre qui s'imposait.
Vous voulez parler de Catherine Deneuve et d'Alain Delon.
C'est ça. Du moins ça a été un choc pour moi. Et disons que le film est un film qui je crois sera passionnant parce que nous l'avons voulu ainsi. C'est un film d'aventure, c'est un film d'action. Je ne dirais pas un film de violence parce que maintenant je crois que depuis bien longtemps la fiction a est en retrait de la réalité, malheureusement, et que nous nous inspirons plus dans le cinéma des faits divers quotidiens.
Alors, l'une des séquences choc de ce film, paraît-il, c'est la gifle que vous donnez à Catherine Deneuve, mais apparemment, ce qui vous a surpris, c'est qu'elle vous a giflé en retour.
Non, ça ne m'a pas surpris, puisque c'était dans le scénario.
Ah, quand même. On m'a dit que vous ne l'aviez pas lu.
Non, non, écoutez, quand même, je lis les scénarios, je sais en général ce que je tourne et ce que je fais. Alors disons que ça n'a pas été une surprise du tout, mais je crois que ça sera peut-être une surprise pour les spectateurs.
Alors votre rôle, c'est encore une fois celui du beau mâle avec un revolver ou plusieurs revolvers ?
Écoutez, beau mâle, je le suis, voilà. Alors, revolver...
Ça, je ne dirais pas le contraire.
Merci, Christine Ockrent. Les revolvers, je ne les utilise qu'au cinéma, mais disons que c'est avant tout, si vous voulez, quand même pour répondre à une certaine demande, pas d'un certain public, mais je crois pouvoir dire d'un public certain, qui aime, disons, Alain Delon dans un certain genre de film et dans un certain style de film. Et je ne tiens pas, avec celui-là plus qu'avec les précédents, à le décevoir. Et je crois que dans ce sens, ils ne seront pas déçus. Je fais du cinéma pour le public. Je le dis, je l'ai déjà dit et je le redis.
Claire, tout ce qui était dans mon coffre, disparu. J'ai plus d'argent. Faut que tu partes maintenant.
Il faut que je parte parce que t'as plus d'argent.
Il y a ça aussi.
Et alors ?
Et alors, t'es complètement inconsciente ou quoi ? Si tu pars maintenant, t'es un otage. Si tu restes, tu deviens complice de tout, de moi. faire.
Et toi, qu'est-ce que tu préfères?
Moi, je préfère continuer ce que je fais depuis 10 ans, flinguer les gens pour les pognons. C'est pas maintenant que je vais changer de vocation. Tu comprends ce que je suis? Tu comprends ce que je suis? Je te plais?
Oui, tu me plais!
À notre micro, le philosophe Paul Audy, fin connaisseur aussi du cinéma de Delon, évoque ces films interchangeables que l'acteur semble traverser sans vraie conviction.
Alors, il a eu de la chance en plus, parce qu'il a eu des rôles exceptionnels. Et puis, à un moment donné, ça n'était plus possible. Et c'est aussi une des clés de son mauvais cinéma. De son mauvais cinéma tardif. La fin de la filmographie. Oui, voilà. Voilà. Il y a une pente. Il y a une pente. Et cette pente, justement, elle tient au fait que il n'arrivait plus à emprunter ce chemin. C'est que pour devenir soi-même, il faut passer par l'autre. Et donc, l'autre n'avait plus autant d'importance. Et en fait, il a joué des rôles. Il les a même plus incarnés, si vous voulez. Ou bien, c'était une incarnation à vide qui n'était même pas de l'ordre de la présence au cinéma. Tous les films avec le mot flic, voilà, à la fin, ça. Voilà.
Ouais. Effectivement, avec une figure de flic assez...
Convenue, stéréotypée. Ouais. Il n'y avait... Enfin, voilà.
Allez. Jean-Olé Laprune revient à son tour sur cette certaine tendance du cinéma de Delon, avec notamment Le Passage, film réalisé en 1985 par René Manzor et dont on écoute d'abord un extrait.
Alors ça y est cette fois, que l'est fini.
On a mis du temps.
Ben, je sais, mais j'avais beaucoup de travail et...
Avant, t'arrivais jamais en retard.
Toi qui as raison, David. Allez, j'ai un gage. Allez, devine où je t'emmène ce soir. Jette un coup d'œil un peu derrière.
C'est une canne à pêche?
Eh oui.
Elle est à qui?
À toi.
Moi tout seul.
Oui, et à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui me nourris, ok? Allez, on y va?
Mais où?
Bah, à la mer. Tu t'imagines pas que tu vas pêcher dans notre chambre?
À la mer?
Oui. On s'est acheté une maison aujourd'hui, juste pour tous les deux.
Super.
Puis, tu sais, j'ai eu maman au téléphone, elle peut pas te prendre avant la mi-juillet.
Génial.
Allez, attache ta ceinture.
Déboulonnage du système de direction de la voiture de Jean Diaz.
Commande acceptée.
Oui, Le Passage, c'est raté, complètement raté. Maintenant, le projet était gonflé, ça mélangeait du dessin animé et des prises de vue réelles. Ça abordait un sujet funèbre, c'était dans un peu de fantastique et tout. Donc, le film est un peu ridicule, aujourd'hui, on peut le dire. Mais il fallait oser. Il fallait oser se lancer là-dedans. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est tout à son honneur d'avoir mis son poids dans la balance pour pouvoir faire ce film.
Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais.
Alors, où elle en est, ton histoire?
Hein? Quelle histoire?
Ben, ton dessin animé.
Ah, j'ai écrit une super scène aujourd'hui. Ça se passe sur une plage. Les deux héros de mon histoire, il et elle, deux amoureux qui s'aiment.
Rappelons que dans ce film pour le moins étrange...
Attention, papa!
Delon incarne un auteur de dessins animés qui s'engage dans une lutte surréaliste avec la mort. Un moderne Faust aux prises avec la métaphysique, en quelque sorte. On se gardera bien de dresser ici la liste de ces films où l'on peine à reconnaître l'affiliation avec ceux de Clément, Visconti, Melville ou Lozé. Et puis, dans cette période incertaine, surgit un autre film contre lequel la critique va se déchaîner et le public s'inscrire aux abonnés absents. C'est Le Jour et la Nuit, l'unique film de fiction réalisé à ce jour par Bernard-Henri Lévy. Delon y incarne un écrivain retiré au Mexique qui reçoit la visite d'une jeune actrice désireuse de jouer l'une de ses héroïnes à l'écran. Le tout avec Ariel Dombal, Carl Zéro, Xavier Beauvois et Marianne Denicourt dans les rôles principaux autour de Delon. On y revient avec Bernard-Henri Lévy, 28 ans après une catastrophique sortie en salle.
Déjà, j'ai l'impression que c'était hier.
Dans mon esprit, c'était pas forcément lui. J'avais une autre idée quand j'ai écrit ce scénario.
On peut savoir lesquels ?
Oui, Michel Piccoli.
Ah oui, on n'est pas tout à fait dans le même registre.
Exactement. J'avais l'idée de Michel Piccoli, on se parlait, nous nous étions rien promis, mais enfin c'était ça. Et puis un jour, je rencontre Delon, que je connaissais déjà, dans un dîner, et je lui transmets une demande d'un de mes vieux amis qui était Alain Robbe-Grillet. Et Alain Robbe-Grillet préparait un film qui s'appelait « C'est Gradiva qui vous appelle ». Et il rêvait d'avoir Delon dans le rôle principal. Et il m'avait dit, bah, je sais que tu dînes avec Delon, j'avais dû lui dire, propose-lui, s'il te plaît, le très grand honneur de travailler avec le pape du nouveau roman. Moi, je dis, ok. On rentre, le dîner était hors de Paris, on rentre en voiture ensemble, minuit, minuit et demi, et dans la voiture, je lui dis, écoutez, cher Alain, Alain Robbe-Grillet, ça vous dit, ça me dit, bah, il rêve de tourner avec vous, grand rôle, rôle principal. Et là, il me dit, écoutez, que ça soit bien clair, une fois pour toutes, et ne reparlez plus jamais de ça. Le dernier film d'Alain Robbe-Grillet, j'en ai rien à foutre. En revanche, si demain vous me proposez le premier film de Bernard-Henri Lévy, ça m'intéresse. Je lui dis, est-ce que vous êtes sérieux ? Il me dit, oui. Je dis, écoutez, il se trouve que je suis en train de terminer un scénario. Il me dit, ça m'intéresse. Voilà. Je lui dis, c'est une histoire faite. D'ici la fin de la semaine, je vous envoie un scénario. Ce qu'il s'est fait, je lui envoie le scénario, il le lit dans le week-end, il m'appelle. Et il me dit, c'est formidable, je veux être votre Alexandre. Et puis, il me dit, je veux le faire. Et moi, ça me paraît comme une évidence. Alors, je vois Piccoli, j'hésite, je dis la vérité d'ailleurs à Piccoli. Les Piccoli et Delon ne s'entendaient pas mal. Hein. Ils étaient aux antipodes à bien des égards, notamment politiquement. Mais ils ne s'entendaient pas si mal. Avec Delon, d'ailleurs, ce sont les deux seuls acteurs sans agent que j'ai connu.
Ce qui veut tout dire.
Des grands acteurs sans agent. Voilà. Puis j'ai décidé que ce serait Delon. Et c'était ça, et on ne s'est plus quitté.
Et vous n'avez pas modifié le scénario en fonction de Delon ?
Non.
Donc c'était, il rentrait dans la chaussure sans aucun problème.
Il rentrait dans le texte.
Ouais.
Et il était un peu plus comédien qu'il ne le croyait, et un tout petit peu moins acteur. C'est-à-dire qu'il était vraiment capable, parce que c'était un génie absolu de l'expression corporel et puis un homme d'une intelligence et d'une subtilité intellectuelle remarquable, exceptionnelle, il était capable d'entrer dans beaucoup de textes, contrairement à ce qu'il croyait.
Vous pensez qu'il le croyait vraiment ?
Oui, je crois qu'il croyait que c'était sa limite, oui. Et il pensait que c'était une limite dont il faisait une vertu, savoir, je ne peux jouer que ce que je vis. En vérité, non. Il pouvait jouer des choses qu'il n'avait jamais vécues. Il n'avait jamais vécu un écrivain, auteur d'une sorte d'attrape-cœur dans sa jeunesse, exilé dans une sorte de monastère laïque dans une ville du Mexique perdue, et nostalgique d'une gloire, et même plus nostalgique d'une gloire ancienne. Tout ça était très loin de lui, et il l'a habité admirablement.
Delon, BHL, la rencontre au sommet a inévitablement produit quelques étincelles, comme s'en est souvenu le cinéaste à notre micro, en évoquant notamment une scène de combat de boxe entre deux rivaux amoureux, interprétés par Alain Delon et Xavier Beauvois.
L'histoire est magnifique, elle est tellement delonienne d'ailleurs qu'elle mérite d'être brièvement racontée. En effet, arrive cette scène, la scène clé du film, c'était un des pivots du film. Un match de boxe dans l'hacienda de Delon, genre comme s'il y avait un ring de boxe dans la maison de Hemingway à Cuba, genre comme ça. Et match de boxe devant le public de l'hacienda, c'est-à-dire Ariel Dombal, Lorraine Bacall, Marianne Denicourt, assises sur des gradins et en train d'assister au match du siècle entre le maître de maison, le grand écrivain légendaire, et un nouveau venu blanc-bec, amant de l'épouse, dragon, la future maîtresse, Xavier Beauvois. Et ce qui était écrit, c'est en effet crépuscule d'une idole, c'est que le jeune blanc-bec met la vieille gloire, KO, devant les trois femmes, Et le jour du tournage, donc c'était une grosse scène, une scène de nuit extraordinairement éclairée, avec des techniciens de tous les côtés, des électros, enfin vraiment très à l'américaine. Gros déploiement de techniques et de figurants. Habituellement, Delon était toujours le premier sur le tournage, avant même les techniciens, avant les premiers assistants, il mettait son point d'honneur, nous on était comme ça du temps de Lino et de Jean, on était les premiers sur le premier arrivé, dernier parti, et là, le tournage était prévu à 20h, et je vois, 8h moins le quart, 8h moins 10, 8h moins 5, pas de Delon, je demande, est-ce que c'est dans le Delon stacké, non, Diego. Xavier Beauvois vient me voir, 8 ans moins le quart.
Le partenaire.
Le partenaire, celui qui, est, voilà. qui, dans le scénario, mettait KO l'idole. Il vient me voir, il me dit, écoutez Bernard, c'est pas grave, changez le scénario comme vous voulez, mais vous avez été salaud, quoi. Pourquoi m'avoir fait prendre des cours de boxe pendant toute l'année à Paris, si c'est pour finir comme ça? J'ai dit, mais de quoi vous parlez? J'ai vu le directeur des Cascades, Ricardo, qui m'a dit que le scénario était changé, que finalement, Delon me mettait KO, qu'il s'adressait aux trois femmes sur les gradins en levant les bras en signe de victoire, et j'arrivais tel un sournois petit morpion derrière lui, et en traître, je lui mettais un coup, et c'est à ce moment-là qu'il tombait au sol. Attendez, mon cher Xavier, il y a un problème, là, c'est pas possible, il n'est pas question de ça. Appelez le directeur des Cascades. J'appelle le directeur des Cascades, qui me dit, si, señor, que el señor Delon nos ha dicho que teníamos que lo hacer otra vez, blablabla. Bref, Delon s'était... J'apprends à la Cascade que Delon s'était mis d'accord dans mon dos pour être mis KO, mais à son insu, traîtreusement, par derrière. Et donc, arrive Delon à 8h moins 1, il ne me jette pas un regard, et il tape dans les mains, et il dit « Allez, tu es muchacho », il s'adresse à l'équipe directement, en passant par-dessus ma tête. Et je lui dis « Attendez, Alain, non, on ne va pas démarrer comme ça, d'abord vous venez me voir ». Et ensuite, je crois qu'il y a un léger problème, là, on n'est pas d'accord. Ah oui, la scène, maestro, oui, la scène, oui. Je me suis permis, avec le directeur des Cascades, on a un peu réécrit ça, mais comprenez, faites-moi confiance. Hein. Vous, la littérature, vous savez, moi, la boxe, c'est mon truc, Monzon dans sa prison, etc. Je connais, rassurez-vous, c'est pour votre bien, je vous protège malgré vous. J'ai dit, écoutez, Alain, non, ne me protégez pas malgré moi, il y a un scénario, venez dans ma caravane. Oh, faites chier, bon, je viens, il vient de la caravane. Et commence une discussion extraordinairement musclée, où le ton monte très haut, il se met en colère, moi aussi, il y a un moment où on se court après d'ailleurs, autour de la caravane, je lui cours après pour le rattraper parce qu'il voulait partir, mais en fait il tournait autour de la caravane, enfin une scène assez grotesque, et puis il se retourne et il m'insulte, et je vois, il avait dans ces cas-là, il avait le visage qui se congestionnait, et les veines du cou, il faisait sans doute des petites crises d'hypertension. Et il me dit, c'est pas possible, Alain Delon ne peut pas se faire mettre KO par un jeune blanc-bec, votre scénario est grotesque, ça ne peut pas marcher, etc. Et là, je me rends compte qu'on est vraiment dans une impasse, quoi, que ça va pas marcher. Et j'ai une intuition, et je lui dis, écoutez Alain, honnêtement, en effet, vous me mettez le doute, mais moi, quand j'ai un doute, je peux pas y aller comme ça à l'aveugle, on tourne pas la scène du tout. On met le film à l'arrêt pendant 2 jours et vous me laissez réfléchir. Et vous savez, pour un écrivain, une scène changée, ça fait des dates de changement en cascade. J'ai besoin de 2 jours. Il me regarde. Puis quoi, vous voulez mettre tous ces gens-là, il me montre, il y avait 80 personnes, tous ces gens-là au chômage pendant 2 jours. Mais vous êtes un petit con, mais vous êtes une espèce de fils à papa de merde. Mais vous savez qu'avec Lino et avec Jean, il n'y avait rien qu'on détestait davantage que les fils à papa qui croyaient que, parce qu'ils avaient du fric, qu'ils allaient pouvoir nous faire n'importe quoi. Vous voulez une chose, maestro? Je vais vous donner une leçon de cinéma, moi. Votre putain de scène, votre scène grotesque, votre scène fausse, eh bien on va la tourner comme vous l'avez écrite, ça vous apprendra. Et là, il va sur le truc. Et il joue la scène comme je l'avais écrite.
Ça fait des mois que j'ai pu boxer, ça va me détendre. Ça te dirait de faire un rôle? Juste pour rire, comme ça. Je taperai pas.
Dans l'état où vous êtes?
Ça fait 30 ans que je m'entraîne. Et toi, t'as jamais mis les gants. Alors tu vois, on est quitte.
Fais comme d'habitude. Et préviens tout le monde.
Contre vents et marées, et face à un échec cuisant, Delon tient bon, si l'on en croit Bernard-Henri Lévy à notre micro, bien des années plus tard.
La réaction de Delon a été magnifique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le film n'a pas marché, ça c'est sûr. Aucunement, ni critique, ni commercial, ni enfin, rien. Et Delon a été, je dois dire, d'une camaraderie, ouais, d'une droiture, d'une solidarité absolument incroyable et rare. On devrait même retrouver, je crois, un son au Festival de Berlin, où on a vraiment été accueillis sous les sifflets, ouais, quasiment les crachats. Où il a tenu des propos qui étaient même trop gentils et trop flatteurs, mais des propos magnifiques, quoi, de solidarité, de fierté. Il a été parfait. Puis surtout, il a accepté, alors qu'on a su très vite que le film allait être un four absolu, et il a continué de faire des interviews, il a continué d'aller à la télévision. Enfin, il a honoré tous les engagements, quoi. Grand seigneur.
La journaliste et critique de cinéma Muriel Joudet a voulu insister, elle, sur la face positive de ces nanars en série qu'elle inscrit dans une filmographie qui mêle inévitablement échec et réussite.
Il y a les nanars et il y a les mauvais films.
C'est deux choses différentes.
Les mauvais films m'intéressent moins. Les nanars, pour moi, il y a une beauté de l'innocence. Il y a vraiment des nanars sublimes. Et ce que je trouve toujours fascinant, c'est de voir le sérieux d'un acteur dans un nanar. C'est-à-dire que Delon prend le nanar de la même manière, aussi sérieusement, ouais, qu'il prend le samouraï. Et tous les acteurs font ça. C'est-à-dire qu'un film, c'est un film. Donc voir l'implication de Delon dans un nanar, je trouve ça déjà vraiment magnifique. Et bouleversant et désarmant. Et surtout, ce qui me fascine, c'est qu'on parle... À chaque fois qu'on parle d'un acteur, on parle des réussites, on parle des grands films. Or, un acteur, c'est aussi énormément d'échecs. Là, on parle de quelqu'un, hein, Delon. Si on en parle, c'est précisément que, voilà, on oublie les échecs, mais les désastres et les mauvais films. Mais ça permet de parler de ce monde parallèle qu'est l'échec dans la vie d'un acteur, déjà. Et ce que je trouve beau dans l'art, c'est en fait de voir Delon qui joue malgré tout, malgré les mauvais films, malgré le fait qu'il n'y a même plus de cinéma dans ces films-là, il continue de jouer, il continue d'apparaître parce que c'est son milieu naturel, parce que c'est, voilà, il appartient au cinéma. Et c'est ça que je trouve beau, c'est comment on continue de soi-même jouer alors même que le système qui nous a rendu possible, esthétique, morale, s'est effondré. Et c'est beau de voir un Delon des années 80, parce qu'on sent qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus l'environnement qui l'a sous-tendu, mais il continue, il avance, parce qu'il sait qu'il doit continuer à produire une image de lui-même.
Le cinéaste Nicolas Parisère analyse à son tour ce qu'il appelle une tension entre différents rôles tenus par Delon après sa flamboyante collaboration avec Joseph Losey pour Monsieur Klein. Comme s'il y avait un avant et un après que rien ne peut vraiment combler.
En gros, la tension dans laquelle est Delon entre une star qui ne peut pas être une star, elle ne peut avoir qu'un temps, c'est-à-dire en gros, ça dure une quinzaine d'années. Et au milieu des années 70, cette tension-là, elle devient intenable. Et donc, les films qu'il va faire après Monsieur Klein vont être de moins en moins intéressants et voire, à partir d'un certain moment, de plus en plus catastrophiques. Pour Delon, la séparation entre le cinéma commercial et le cinéma d'auteur, elle n'a aucun sens. Puisque c'est une star qui s'exprime comme un auteur. Et à partir du moment où cette séparation-là, elle devient effective, son système esthétique s'effondre. Son système esthétique n'est plus possible. Et l'autre chose, c'est que Godard va prendre en 1990 une ruine, en fait. C'est-à-dire que c'est comme un chef-d'œuvre de l'Antiquité qui, au fil des années, est en ruine. Donc il va prendre un grand artiste en ruine. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'inhabituel aussi de prendre quelqu'un qui est encore vivant, mais qui est comme en ruine. Et Godard a ce génie de filmer vraiment Delon comme une ruine, comme une ruine romaine ou une ruine grecque. Donc effectivement, il fait dire à Delon, qu'est-ce que tu fais ? Je fais pitié. Mais en même temps, il n'y a rien de plus beau qu'une ruine. Donc c'est le dernier grand film de Delon. Mais pour le coup, c'est un film où Delon est très passif et où le génie est entièrement du côté de Godard. Mais il filme Delon presque comme, comme un moment passé de l'histoire de l'art.
Nicolas Parizère vient d'évoquer le nom de Jean-Luc Godard et l'unique film qu'ils ont fait ensemble, le malicieusement nommé Nouvelle Vague, sorti sur les écrans en 1989. Comme un rattrapage d'une rencontre qui n'eut pas lieu entre les cinéastes de la Nouvelle Vague et Delon. Contrairement à ce qui se passa entre Belmondo, Godard, Truffaut et Chabrol notamment. En 1995, sur France Inter, dans l'émission Les Étoiles du cinéma, Delon, au micro d'André Asseo et Jean-Claude Loiseau, est revenu sur l'étonnant et stimulant tandem qu'il a formé le temps d'un film avec Godard.
Alors, qu'est-ce qui vous a déclenché de jouer avec Godard?
C'est très simple.
Prototype de la Nouvelle Vague.
Alors, c'est très simple. Ex-prototype, il n'est plus du tout une Nouvelle Vague maintenant. Vous savez qu'une vague chasse l'autre quand même, sur la plage. Alors, c'est très simple. L'idée revient à Alain Sard, producteur. J'ai eu envie, quand il m'a fait cette proposition, je ne connaissais pas le sujet, bien sûr. D'abord, il m'a dit, est-ce que vous seriez partant un film avec Godard? Il vous racontera l'histoire, parce que vous savez que Godard n'écrit pas, il vous raconte l'histoire. Il va avec une page et demie, et puis vous bredouillez, vous ne comprenez rien du tout, d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec moi. Et j'ai eu envie, je vous le dis sans prétention, je considère, si vous voulez, ma carrière un petit peu comme une carte de visite. J'ai voulu mettre Godard sur ma carte de visite. J'en ai eu envie, j'en ai eu besoin. C'est une rencontre qui manquait à mes rencontres. Nous faisons le même métier, bien sûr, mais nous ne le faisons pas dans la même direction. Nous sommes tout à fait diamétralement opposés l'un à l'autre. Moi, je suis pour un cinéma classique, disons. Lui, il est pour un cinéma Godard. Nous ne parlons pas du tout le même langage. Nous n'avons pas la même conception de notre métier. Moi, je suis plutôt, comme vous dites, perfectionniste, ordre. Lui est plutôt désordre, improvisation, etc. Donc j'ai eu envie de vivre cette expérience. Et compte tenu de ma personnalité, de mon caractère et de la sienne, sûrement, je me suis dit, avant d'accepter, je me suis dit, si tu veux faire un Godard, il faut que tu joues le jeu à fond. C'est-à-dire que s'il te fait rentrer par la porte gauche et qu'il te fait sortir par la porte droite, tu veux dire, attention, là, il y a une faute de raccord. Non, il ne faut pas, lui, il ne faut pas. Il faut faire ce qu'il veut. Je me suis conditionné, j'ai dit, alors je vais complètement faire ce qu'il veut. J'ai décidé de me libérer dans les mains de Godard et de me mettre à la disposition de Godard.
Ce qui est rare chez vous.
Unique. Et je ne le regrette absolument pas, parce que je cautionne totalement Nouvelle Vague. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui, j'aime beaucoup le film, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, et j'ai beaucoup aimé ce que j'en ai fait. Voilà.
Rappelons que le film de Godard raconte rien moins que la mort et la résurrection du personnage incarné par Delon sous deux prénoms différents.
C'est la même chanson qui recommence. De nouveau, on nous propose le futur.
Comme un corps conducteur de tous les personnages qu'il a interprétés dans sa vie d'acteur, entre présence et absence à son personnage. Ce que Godard, avec son laconisme habituel, résumait ainsi.
Pendant longtemps, ça ne s'est pas passé. Et puis là, il y avait un rôle, je pense, qui était possible pour lui, dans lequel je ne voyais que lui. Puisque c'est quelqu'un qui peut... Vu ce qu'il est, comment il se considère, son rapport avec lui-même, son rapport avec les autres, il peut à la fois être et avoir été, et il peut tout à fait jouer un double rôle. C'est quelqu'un qui porte tout naturellement sa propre tragédie en lui. Et moi, comme on le dit dans le film, je ne peux lui faire aucun mal. Je peux l'agacer, l'énerver, le tuer peut-être, mais c'est tout.
Les femmes sont amoureuses et les hommes sont solitaires.
Une femme ne peut pas beaucoup nuire à un homme.
Bonjour, monsieur Lennox.
Il porte en lui-même toute sa tragédie.
Vous restez pas là comme ça.
Elle peut le gêner, l'agacer. Elle peut le tuer. C'est tout.
Contessa, la
monsieur
le secrétaire d'État à la recherche scientifique.
Les machines peuvent vivre leurs dernières heures.
Donnez vos documents au ministre.
Madame la comtesse.
Mon ami, avancez-le. Qu'est-ce que vous faites là?
Je fais pitié.
Non. Oh, l'amour indéterminé n'existe pas.
L'eau circule et s'évanouit.
Les femmes.
Et ça les m'arrête.
Ça ne veut rien dire.
Donc nous, mon secret...
Nous avons moins d'amour que nous n'avons d'attachement.
Alors toutes les formes de la création sont possibles.
L'attachement forcé.
Cinq ans avant Nouvelle Vague de Godard, l'acteur avait déjà pris d'autres risques en acceptant d'incarner un personnage déchu devant la caméra de Bertrand Blier pour Notre Histoire face à Nathalie Baye.
Pourquoi vous me regardez ?
Je voudrais vous raconter une histoire.
Quel genre d'histoire ?
Vous permettez que je m'assoie ?
Pour ce rôle de garagiste alcoolique et paumé, Delon se fonde parfaitement dans l'univers de Blier et reçoit un César qu'il ne vient pas chercher. Pour le cinéaste, rien d'étonnant. Delon est décidément un acteur à part.
Attendez-moi, j'achète des bières. Oh, mademoiselle ! Mais quel con, je connais même pas son nom, dit. Attendez-moi. Oh !
Il n'a pas eu peur, là. Il a joué le jeu. Je crois qu'il était d'accord sur l'entreprise dans sa totalité. Mais il y avait des choses qui lui échappaient. Il voulait pas admettre certains détails.
Bertrand
Blier. Mais sur le fond, il était d'accord sur le personnage, sur le risque qu'il prenait en tant qu'acteur. Il l'a pris tout à fait consciemment. Et ça, c'est à son honneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Delon, qui peut remettre sa carrière en question à chaque instant. D'ailleurs, il s'en fout complètement. Parce que sa carrière, pour lui, c'est un souci mineur, je pense, actuellement. Il est content quand on lui fait tourner un grand rôle. Mais sinon, il fait autre chose. Hein. C'est pas...
Que fait-il ?
Il fait des affaires, je pense. Il fait pas du tout partie de ces acteurs qui ont un besoin quotidien de jouer un rôle. Comme Ed Depardieu, par exemple, qui peut pas rester un week-end sans aller faire un personnage pour des copains gratuitement dans un film à Maubeuge. Non, lui, Delon, il est tranquille, il fait autre chose. Il voyage, il s'occupe de ses maisons, il fait ce qu'il veut.
Vous pensez, vous, qu'il devrait tourner plus ?
Moi, je pense qu'il devrait tourner au maximum, parce qu'il est irremplaçable, il n'y a pas d'acteur pour jouer ses rôles, on ne peut pas mettre quelqu'un à sa place, donc il devrait donner davantage au public, et ça lui ferait le plus grand bien, il serait beaucoup plus heureux, certainement. Et... Moi, je trouve qu'un acteur, c'est fait pour jouer. Alors, si on imaginait qu'on parle d'un grand musicien qui ne donnerait qu'un concert par an, c'est complètement idiot. Alors, un acteur, c'est pareil. Il devrait faire au moins 3 films par an. Un gros, très delonesque, avec flingue et tout ça. Puis 2 autres où il prendrait des risques, où il s'amuserait. Faire des choses, bon... Ça ne changerait rien à sa carrière.
Un extrait de Notre Histoire suffit à entendre combien Delon, contre toute attente, parvient à adopter la langue si particulière de l'auteur Bertrand Blier, au cœur même de cette époque où l'acteur enchaîne d'autres films beaucoup moins ambitieux et singuliers.
C'est que je te raconte pourquoi je suis revenu. J'étais m'acheter un Polaroid. Et devine pourquoi j'étais m'acheter un Polaroid. J'ai l'intention de photographier ton sourire. C'est pas une idée formidable ? Hein ? Parce que ton sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Peut-être pas demain, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Puis ce jour-là, moi, je serai là avec mon Polaroid. Et... Hop ! Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver, hein, pour que tu sois si triste ? Tu peux me le dire, moi, tu sais, moi, je suis un spécialiste en matière de tristesse. Hein ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Regarde-moi ça. Est-ce que tu as déjà rencontré dans ta vie une fille aussi triste ?
On m'a enlevé la garde de mes enfants.
Qu'est-ce que tu dis ?
On m'a enlevé la garde de mes enfants.
Des enfants ?
J'ai 33 ans, je suis divorcée, j'habite toute seule dans un petit chalet silencieux. Et dans le temps, c'était une maison pleine de rires, de poursuites, de bagarres. Maintenant, il reste plus que des lits superposés vides, une chambre abandonnée, des jouets qui rouillent dans un placard et un alcoolique parasite qui essaye de s'incruster dans mon cafard.
Je suis pas un alcoolique, je bois parce que j'ai une boule dans la gorge.
Et moi aussi, j'ai une boule dans la gorge. C'est pour ça que je souris pas.
Dans le prochain et dernier épisode de cette série consacrée à Alain Delon, nous tenterons, sinon d'en percer le mystère, du moins de l'éclairer sous différentes facettes. Quelle image laisse-t-il désormais, lui, qui parlait de lui très naturellement à la troisième personne ? Comment son parcours s'inscrit-il dans l'histoire du cinéma français ? Quel est donc ce mythe Delon qui se dérobe sans cesse, cultive les paradoxes et tient à l'écart tout jugement péremptoire et définitif ? Pour l'heure, laissons à ce drôle d'échange entre Alain Delon et sa femme Nathalie en 1965 le soin de soulever quelques pistes.
Quel est ton plus grand défaut ?
La colère.
Coléreux, épouvantable, égoïste et très égoïste. Mais physiquement, je pourrais le décrire. Il n'est pas si beau qu'on dit. Il est beaucoup plus intéressant qu'on pense. Pour moi, enfin, à mon avis.
Delon par Delon est un podcast original de France Inter proposé par Laurent Delmas. Et mise en onde par la guépard Audrey Ripouille, avec l'aide de la samouraï Karen Day, de la tulipe noire Laura Dumez, de la professeure Emmanuelle Fournier, de la gitane Emma Bouvier et du clan des Siciliens au mixage Basile Bocquer et Baptiste Collion. Avec eux, avec nous,
avec moi.